en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Chers amis, bonjour. Il est inventeur des sciences naturelles, il est selon Rousseau la plus belle plume de son siècle. Classé parmi les quatre écrivains les plus éminents du XVIIIe siècle, il a un style pur et limpide de notre Chateaubriand et surtout une grande noblesse car il a donné à la langue française cette éducation calme et majestueuse que Platon avait donnée à la langue grecque. Le comte de Buffon, lui-même, nous offre l'un des plus retentissants succès de librairie au XVIIIe siècle avec l'histoire naturelle générale et particulière, ouvrage bientôt décliné en anthologie plus ou moins richement illustrée pour les grands et pour les petits. Il a fait face aux intempéries de sa vie avec un talent certain de diplomate et de stratège averti et aussi une patience à toute épreuve car comme il disait, le génie n'est qu'une plus grande aptitude à la patience. Leçon de vie au sens propre et figuré, nous parlons aujourd'hui de Georges-Louis Leclerc, dit Buffon, avec notre cher académicien Philippe Taquet, paléontologue, docteur ès sciences, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, dont il a été directeur de 1985 à 1990, et bien sûr membre de l'Académie des sciences. Est-ce que ma définition est complète ?
Mais j'ai succédé d'une certaine manière, très modestement, à Buffon, puisqu'il a été l'intendant du Jardin du Roi, qui est devenu le Muséum National d'Histoire Naturelle en 1793, lors de la Révolution française, et étant le directeur du muséum en 1985, j'ai occupé le bureau de Buffon, et j'ai travaillé sur le bureau de Buffon pendant 5 ans, ce qui était très impressionnant.
Philippe Taquet, merci de nous faire l'honneur de bavarder aujourd'hui sur donc notre sujet, le comte de Buffon. Vous avez beaucoup étudié ce personnage, car il était un vrai personnage, je dirais presque à la mesure de son ambition. Alors, j'ai envie de vous demander, comment le décririez-vous ?
Bien, c'était un homme extraordinaire qui était tout à la fois maître des forges, c'est-à-dire un industriel qui était né à Montbard et qui avait des forges en Bourgogne et qui devint l'intendant du Jardin du Roi, mais qui était à la fois un savant et un philosophe. Il a marqué profondément la pensée du XVIIIe siècle et ses talents se sont exercés dans de très très nombreux domaines. Il a commencé sa carrière et ses études en se passionnant pour les mathématiques. Oui. Il calcule les probabilités. Il a fait un travail publié à l'Académie des sciences, d'ailleurs, sur le jeu du Francaro. Il s'est intéressé aux travaux de Newton. Il a traduit, d'ailleurs, le traité des fluxions de Newton. Et puis ensuite, il s'est tourné vers l'histoire naturelle. Et ça a été sa nouvelle passion. Et il a eu une ambition extraordinaire qui a été, de décrire l'ensemble du règne animal connu au XVIIIe siècle, dans une histoire naturelle, générale, en commençant par la description des richesses du cabinet du roi. Et le fait d'avoir été nommé en 1739 intendant du Jardin du Roi, qui existait depuis 1623, et dans lequel se trouvaient 3 types d'enseignement, un enseignement de botanique, un de chimie et un d'anatomie, et bien ce jardin abritait des collections d'histoire naturelle. Et Buffon va donner un essor extraordinaire à ce jardin en agrandissant le domaine et en faisant venir du monde entier des animaux, des spécimens qu'on naturalise et qu'on présente dans ces galeries d'histoire naturelle. Et il va entreprendre, avec l'aide de collaborateurs, la description de tous les mammifères et de tous les oiseaux. Et dans un travail qui va l'occuper pendant près de 50 ans et qui va employer... C'est une tâche qui va se répandre sur près de 50 volumes.
Et pardonnez-moi, comme Newton, vous évoquiez Newton tout à l'heure, disait à Buffon, mais comment avez-vous fait tant de découvertes ? Et il rétorquait en cherchant toujours et cherchant patiemment.
Voilà, c'était un homme d'une curiosité insatiable. Et ses descriptions ont marqué le siècle et se lisent encore aujourd'hui avec extraordinairement d'agrément. Parce que d'abord, il avait une plume très agréable, il était très doué, et un très beau style. Et ses descriptions des animaux étaient, au fond, des descriptions qui replaçaient chacune des espèces animales, mammifères, oiseaux, dans l'ensemble du règne animal, avec énormément de détails sur le mode de vie, les habitudes, on dirait aujourd'hui l'écologie des animaux. En fait, il était un petit peu en avance pour son temps. Et ces descriptions, qui sont très agréables à lire, donnent une excellente idée des relations des animaux entre eux. Alors que, parallèlement à Buffon, en Suède, un autre grand naturaliste qui s'appelait Charles Linné a choisi un parti radicalement différent pour décrire le règne animal et qui a été de classer très précisément avec des caractères qu'il définissait chacune des espèces animales. Alors, la lecture de Linné était très austère, celle du Buffon était très agréable. Et le Buffon a donc eu un succès de librairie, vous l'avez dit, extraordinaire. D'abord en publiant dans une édition très luxueuse, dans l'imprimerie royale, dans des éditions Princeps, de grands in-folios, mais ensuite en faisant des éditions beaucoup plus populaires, dans des petits volumes, agrémentés de gravures dressées par M. De Sèvres, qui sont superbes gravures, magnifiques, en noir et blanc, avec chaque animal mis dans un décor factice, mais qui était très belle. Et puis en particulier pour les oiseaux, il a fait appel à un artiste de talent qui s'appelait Martinet, et qui a alors fait, à partir de vélin, des oiseaux avec des couleurs très vives. Et cette édition-là, évidemment, a eu énormément de succès. Et encore aujourd'hui, on publie encore Buffon et on se régale à la lecture et à l'examen de toutes ces descriptions. Donc Buffon a été un homme des Lumières qui a eu la capacité d'embrasser dans un seul ensemble le règne animal. Et qui plus est, en écrivant, en introduction à cette histoire naturelle, disons, des époques de la nature pour replacer le règne animal dans l'histoire de la Terre. Et à ce titre, il a été là aussi un précurseur, brossant un tableau des, on dirait aujourd'hui, des temps géologiques, montrant l'ancienneté de la Terre, même expérimentant dans les forges de Buffon à partir de boules d'acier qui la faisaient refroidir, essayant d'estimer la durée de l'âge de la Terre, ce qui était assez révolutionnaire, je dirais, à l'époque, en tout cas qui a un peu agité ces messieurs de la Sorbonne qui voyaient d'un assez mauvais œil une remise en cause de la chronologie biblique.
Voilà, tout à fait. Donc c'est un vrai personnage, le comte de Buffon, donc un scientifique averti et un littéraire également, puisque comme vous le disiez, il écrivait de telle façon qu'on adorait le lire, et pour les grands, pour les plus petits, pour les érudits et les moins érudits.
Oui, il était aussi très célèbre parce que peu après avoir été élu à l'Académie des sciences, très jeune d'ailleurs, à l'âge de 26 ans, ce qui est remarquable. Cuvier aussi sera élu à l'Académie des sciences à l'âge de 26 ans.
Sans visite protocolaire.
Sans visite protocolaire. Il sera ensuite élu à l'Académie française et il y prononcera en 1753 un discours qui est resté très fameux, un discours sur le style qui dit « Le style est l'homme même. Le style ne peut donc ni s'enlever, ni se transporter, ni s'altérer. S'il est élevé, noble, sublime, l'auteur sera également admiré dans tous les temps. » Et c'est un texte absolument splendide qui, au point de vue de la syntaxe et de la langue française, reste très très beau et très agréable à lire. C'est une des raisons probablement pour lesquelles la fameuse collection de la Pléiade chez Gallimard va publier les bons morceaux de Buffon dans sa célèbre série et collection. Et c'est à juste titre qu'on peut relire Buffon aujourd'hui.
Alors, revenons un petit peu sur le début de son parcours, disons la date vraiment qui va le faire entrer dans la cour des grands. Et c'est même plus que la cour des grands, puisque c'est le jardin du roi. On est en 1739, si voilà. Je ne me trompe. Donc, cette période est un tournant pour Buffon.
Oui, 1739, et Buffon est jeune, et il se débrouille admirablement pour mener campagne et être nommé par le roi, parce qu'on est nommé par le roi intendant du jardin royal, des plantes médicinales. Et il avait des rivaux et il a devancé tous ses rivaux en menant une excellente campagne. Et c'était un homme tout à fait intéressant parce qu'il a pris conscience très vite de l'ensemble exceptionnel que constituait le jardin du roi et il a su le développer en achetant les terrains alentour pour accroître le domaine. Et en industriel avisé et en homme d'affaires avisé, il a fait fabriquer, c'est une anecdote célèbre, les grilles du Jardin des Plantes, qui existent toujours aujourd'hui, étaient fabriquées dans les forges de Buffon à Montbard. C'est-à-dire que non seulement il agrandissait le domaine, mais sur sa cagnotte, sa caisse personnelle, il faisait les grilles du Jardin des Plantes et il se faisait ensuite rembourser par la caisse royale.
C'était un businessman.
C'était un businessman. Et ensuite, il a évidemment envoyé des naturalistes, comme l'a fait Linné en Suède, mais un peu dans le monde entier. Et de toute l'Europe, étant donné son prestige, on lui a envoyé des spécimens, des échantillons, des minéraux, des fossiles. Évidemment, il est devenu très, très vite, très célèbre. Et dans son œuvre, il a évidemment abordé toutes sortes de questions, dont certaines sont relativement, sonnent d'une manière moderne encore aujourd'hui. En particulier sur l'existence d'espèces perdues, on dirait. Voyant des dents, qu'on appelle celles des dents de mammouth aujourd'hui, envoyées par la Russie à Paris, il a vu qu'il s'agissait d'éléphants. Il a supposé que c'était des éléphants qui étaient allés du midi vers le nord et qu'évidemment les climats avaient changé. C'était pas tout à fait vrai parce que le mammouth a vécu dans des périodes froides avec de longs poils. Mais il a bien réalisé que ces espèces d'éléphants étaient des espèces perdues, qui n'existaient plus aujourd'hui. C'est ce qui sera développé ultérieurement par Cuvier. Il a eu l'idée de changement dans le monde animal, pas tellement dans les transformations, plutôt dans la dégénérescence des animaux. En imaginant qu'en Amérique du Nord, il n'y avait pas de grands mammifères comme en Afrique ou en Europe, et que finalement, les faunes américaines étaient dégénérées aux grandes dames de Benjamin Franklin, puis de Thomas Jefferson, qui ont estimé que Buffon exagérait, parce qu'on trouvait aussi des restes d'animaux très grands dans les couches anciennes d'Amérique du Nord. Et d'ailleurs, Franklin a envoyé des os de mastodontes au Jardin du Roi, à Buffon, pour prouver que Buffon avait tort sur ce point. Il a ensuite fait de l'anthropologie, il a été un précurseur en anthropologie, en montrant que l'homme, les variétés de l'homme sur Terre appartenaient en fait à la même espèce, qu'il y avait une unité de l'homme tout autour de la Terre, ce qui était très en avance pour son temps. Donc voilà quelqu'un qui a embrassé toutes sortes de questions plus générales, dépassant la simple description des animaux. Et Buffon peut être célèbre à juste titre. Les époques de la nature restent une approche extrêmement intéressante et passionnante de la vision qu'avait l'homme de l'histoire de la Terre à son époque. Donc tout ça a contribué bien sûr à sa gloire. Alors évidemment, il n'a pas été seul à l'époque, puisque j'ai évoqué Linné, qui était son rival. Et ils étaient très rivaux. Évidemment, il y avait un désir de gloire de chaque côté, à la fois chez Linné et chez Buffon. Et on peut à cette occasion citer Cuvier, qui, dans le siècle suivant, va juger les deux hommes et leur carrière. Et ce que dit Cuvier de Linné et de Buffon est extrêmement intéressant parce qu'au fond, il résume parfaitement la personnalité de chacun des deux grands savants dont on fête cette année le tricentenaire, à la fois de la naissance, à la fois de Linné et aussi de Buffon. Ils sont nés la même année. Et donc, Cuvier dit, tous deux passionnés pour leur science et pour la gloire, tous deux infatigables dans le travail, tous deux d'une sensibilité vive, d'une imagination forte, d'un esprit transcendant, ils arrivèrent tous deux dans la carrière armés des ressources d'une érudition profonde. Mais chacun s'y traça une route différente, suivant la direction particulière de son génie. Linné saisissait avec finesse les traits distinctifs des êtres, Buffon en embrassait d'un seul coup d'œil les rapports les plus éloignés. Linné, exact et précis, se créait une langue à part pour rendre ses idées dans toute leur rigueur, Buffon, abondant et fécond, usé de toutes les ressources de la sienne pour développer l'étendue de ses conceptions. Donc, au fond, il y a deux personnalités qui traitent de la nature, et comme Cuvier ajoute avec juste titre, quelquefois fatigué de l'étude pénible de Linné, parce que c'est plus aride à lire, on vient se reposer avec Buffon. Mais toujours, lorsqu'on a été délicieusement ému par ces tableaux enchanteurs, on veut revenir à Linné pour classer avec ordre ces charmantes images dont on craint de ne conserver qu'un souvenir confus. Vous voyez le balancement des naturalistes du siècle d'après entre les qualités respectives de deux très grands naturalistes.
Tout à fait. Et Buffon donc, savait joindre le descriptif grâce à ses gravures dont vous parliez. C'était très avant-gardiste pour l'époque. Pourriez-vous nous décrire un petit peu cette période ?
Oui, les périodes étaient... Buffon partageait son temps entre Montbard, il exploitait évidemment ses domaines.
Car il avait également cette affaire-là.
Voilà, il avait ses forges et puis c'était un grand sylviculteur, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il avait des forêts. Il a expérimenté d'ailleurs sur les bois pour faire des mâts de bateaux, la résistance des bois. Et il venait à Paris pour gérer le jardin royal des plantes médicinales. Et il passait de temps en temps, évidemment, à la cour du roi Louis XV pour bien se faire voir. Et il a d'ailleurs été très ami et très lié à Madame Necker, la femme du banquier. Et ils étaient très, très amis. Et quand Buffon se rendait à Versailles, c'était en fait... essentiellement pour traiter des affaires, avoir des crédits, agrandir le domaine du Jardin du Roi, lancer des missions ou des expéditions. C'était très intéressé. Sinon, il n'aimait pas fréquenter particulièrement la cour. Il se tenait un peu à distance, mais il était très, très apprécié. Il a évidemment après eu des soucis de santé. Et il a eu des calculs rénaux qui l'ont fait énormément souffrir. Il a dû s'entourer de collaborateurs pour mener à bien son œuvre. Parmi eux, l'abbé Bexon, qui a décrit beaucoup d'oiseaux. Et puis surtout un collaborateur remarquable, qui était Daubenton. Daubenton, qui était né à Montbard, comme lui. Donc il a fait venir quelqu'un de son pays. Daubenton était médecin à Montbard. Et Daubenton est venu au Jardin du Roi. Il en est devenu plus tard, après la Révolution, intendant lui aussi, ou directeur du muséum, puisque le muséum avait été nationalisé après. Mais Daubenton a été chargé par Buffon de faire des dissections des animaux, des mammifères, pour illustrer à l'origine l'histoire naturelle, et en donnant beaucoup de détails anatomiques, et en donnant évidemment une bonne approche des relations qui existaient, même d'une certaine unité du monde animal, grâce aux dissections de Daubenton. Mais évidemment, c'était moins agréable à regarder les animaux éventrés, ouverts, disséqués, et les tripailles de M. Daubenton, comme on l'a dit à l'époque, évidemment, étaient moins agréables à vendre dans les ouvrages, et dans les ouvrages ultérieurs, eh bien, Buffon s'est séparé de Daubenton, en tout cas a demandé à Daubenton de ne plus mettre ce type d'illustration. Daubenton en a été très vexé. Les ouvrages se sont bien vendus, mais évidemment, les choses ont été moins anatomiques, moins précises, mais plus agréables à la description. Voilà, au fond. Mais l'art de Buffon a été de savoir s'entourer d'une bonne équipe de collaborateurs. Et tout de même, en dernier ressort, c'est lui qui vérifiait le style et qui donnait la touche finale à l'œuvre grandiose qu'il a traitée pendant près de 50 ans.
Monsieur Taquet, je vous propose de faire une petite pause. On reprendra dans quelques minutes. Merci.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Le parcours de Buffon s'ouvre d'un coup, on dira, vers 1782, donc sa carrière est à son apogée. Pourriez-vous nous décrire cette période où vraiment il a acquis le statut qu'on lui connaît ?
Oui, on a un peu, au fond, donné une image de Buffon, le savant du XVIIIe siècle, écrivant sa fameuse histoire naturelle avec des manches de dentelle dans un grand salon, etc. C'est vrai en partie, puisque c'était les tenues de l'époque, mais tout de même, il mettait la main à la pâte et il a évidemment beaucoup, beaucoup travaillé, mais en écrivant, en partie à Paris, mais surtout à Montbard. C'était Montbard, son refuge, là où il se trouvait au calme dans sa tour. Cette tour existe toujours, est transformée d'ailleurs en musée. On peut recommander la visite de Montbard, à la fois du château où Buffon avait son habitation, sa famille, et des forges de Montbard qui sont tout à côté et qui sont classées et qui se visitent et qui sont très intéressantes parce qu'on y démontre la façon de faire de l'acier, du fer à l'époque. Et le Buffon passait des heures et des heures dans sa tour à rédiger et à décrire chacun des oiseaux de l'histoire naturelle ou tous les mammifères. Ensuite, il revenait bien sûr à Paris gérer le Jardin du Roi. Il a eu aussi l'astuce de s'entourer d'hommes exceptionnels. J'en parlais de Daubenton tout à l'heure, mais en particulier de jardiniers exceptionnels. Et parmi eux, André Toin, un jardinier, et d'ailleurs dont les enfants, après, il y avait des dynasties, si vous voulez, qui ensuite s'installaient au muséum, la famille s'installait, et pendant plusieurs générations, on restait jardinier au Jardin du Roi. Donc la dynastie des Toins, en particulier André Toin, a été un très grand jardinier qui a eu l'intelligence de faire venir des graines du monde entier avec des grandes expéditions circumpacifiques ou autour de la Terre. Et le jardin a été non seulement un cabinet d'histoire naturelle absolument magnifique, mais aussi un jardin que tout le monde venait visiter parce que il y avait là des plantes du monde entier que Toin acclimatait Il y avait évidemment une raison économique aussi, d'essayer d'introduire en France de nouvelles cultures. Et le jardin était extraordinairement célèbre avec une école de botanique qui existe toujours aujourd'hui, dans la tradition de Thouin. Et partout affluaient des plantes dans des serres portatives de voyage qu'on amenait comme ça jusqu'à Paris, ou des graines, et qu'ensuite on réenvoyait sur d'autres terres françaises outre-mer pour les acclimater. Donc il y avait tout un échange, un système d'échange et de développement finalement des plantes utiles pour la nation à l'époque. Donc le jardin avait une grande utilité et Buffon a su mettre au bon endroit des hommes d'une très très grande compétence, en particulier la dynastie des Thouin.
Buffon était un homme plutôt solitaire. Il visite finalement peu de salons parisiens, alors qu'à l'époque, ces salons sont plutôt remplis de monde.
Oui, c'est tout à fait vrai, vous avez raison. Buffon, en dehors de l'amitié très forte avec Madame Necker, Buffon, finalement, reste peu, va peu à la cour et préfère sa compagne de Montbard. Et nous avons, il y a quelques années, au Jardin des Plantes, au Muséum, fêté le bicentenaire de la mort de Buffon, puisqu'il est mort en 1788, juste une année avant la Révolution. Et on pourrait même dire que, comme l'a dit un de mes confrères, que Buffon a tout réussi, même sa mort, puisqu'il est mort un an avant la Révolution. Or, il faisait partie des dignitaires de l'Ancien Régime et il aurait été guillotiné. C'est son fils qui a été guillotiné. Le jeune Buffon, qu'on appelait Buffonnet, est mort sur l'échafaud, a été guillotiné. Et Buffon est mort juste à temps, après avoir d'ailleurs construit dans le jardin le grand amphithéâtre qui existe toujours aujourd'hui, un superbe amphithéâtre dans lequel d'ailleurs finalement se sont déroulés les premiers débats révolutionnaires de l'école normale de l'an 3. Cet amphithéâtre a été, financé et sous l'impulsion de Buffon. Donc Buffon, assez solitaire, vous avez raison. Et il y a quelques années, nous avons, en fêtant le bicentenaire de la mort de Buffon, donné un spectacle, une reconstitution très agréable, très belle, de Buffon côté jardin, en mettant en scène, grâce à la compagnie Alain Germain, qui est maintenant très célèbre, dans un petit théâtre du XVIIIe siècle, à l'occasion d'une exposition, on mettait en scène, chaque soir, Monsieur de Buffon parlant avec Madame Necker et avec le jardinier Thouin. Et c'était un spectacle très agréable, une bonne façon pour les jeunes de découvrir, au fond, la manière de travailler de l'époque et la vie au sein du Jardin des Plantes et du Jardin du Roi.
Alors, Comte de Buffon avait l'art de manier la science et la littérature, comme on disait, de traduire les phénomènes naturels en une forme de poésie. Il mettait à la portée tous avec des mots qui nous parlaient et qui nous parlent toujours. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cela ?
Il y a des morceaux de bravoure, dirait-on, qu'il faut absolument lire. Le cheval, la plus noble conquête de l'homme, ça c'est Buffon. Et c'est ce qu'il faut lire, c'est la description du chien, du cheval, de l'âne, dans les fameux textes de Buffon. C'est absolument admirable et très agréable à lire. Et on ne peut que recommander la lecture des morceaux choisis de Buffon. Et d'ailleurs, on a aussi fait des Buffons des enfants, c'est-à-dire de reprendre les grands textes de Buffon pour les mettre à la portée des jeunes. Il y a eu toute une série d'éditions depuis Buffon jusqu'à aujourd'hui, dans tous les domaines. C'est l'auteur du Petit Gallimard la découverte, qui est M. Lessu, qui vient de sortir un Buffon remarquable, qui s'intitule
Buffon, la nature en majesté.
Voilà, a écrit que le catalogue de la Bibliothèque nationale comprend 45 pages des éditions successives de Buffon au cours des siècles depuis 1788. C'est donc un succès éditorial absolument exceptionnel. Et effectivement, la lecture est très belle, à la fois du point de vue de l'histoire naturelle, à la fois du point de vue de la langue française. Vous avez raison, les grands morceaux de bravoure sont absolument liés. Bon, mais Buffon a aussi fait quelques erreurs. Il a, sur le plan de la science, évidemment, pas tout su. Et on peut citer par exemple le fait qu'il croyait encore, comme beaucoup de gens de son époque, à la génération spontanée. C'était ça, sur ce point-là, il s'est trompé. Bon, il imaginait, ce qui est assez curieux, mais ça peut se comprendre au XVIIIe siècle, que les hirondelles, ne savaient pas que les hirondelles migraient et quittaient le continent européen, mais comme on les voyait réapparaître et raser les flots au-dessus des lacs, on imaginait que pendant l'hiver, elles s'enterraient dans le fond des lacs et rejaillissaient au printemps à partir des lacs. À l'époque, les naturalistes, la plupart d'entre eux, croyaient à la génération spontanée. Il a cru à la dégénérescence des animaux. Ce qui n'était pas non plus tout à fait correct. Donc il y a comme ça un ensemble d'erreurs, mais il y a quand même aussi des idées de génie sur la notion du temps dans l'histoire de la Terre, sur la notion qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la biogéographie, c'est-à-dire la distribution géographique des animaux. Il a remarqué que la distribution obéissait à un ensemble de règles sur l'unité du genre humain, je l'ai dit. Et donc, sur ce plan, au fond, il a été, comme l'a dit un historien des sciences, qui s'appelle Claude Blanclard, il a été un agitateur d'idées. Il a avancé toutes sortes d'hypothèses qui ont été reprises ensuite et qui ont été développées, certaines étant extrêmement fécondes. Et sur ce point, il marque son temps et il est un auteur absolument exceptionnel, dont les qualités sont reconnues par les scientifiques et les historiens des sciences du monde entier.
Et il avait, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de rivaux. Enfin, beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais bon, quelques-uns. Et alors, il arrivait toujours avec un calme et une sérénité à leur répondre, des mots qui les calmaient quelque part, qui arrêtaient le discours et bon, donnaient à Buffon cette plus-value, je dirais, que les autres n'avaient pas.
Oui, il a eu des rivaux, vous avez raison, et des gens qui étaient jaloux. Il ne s'est pas très bien entendu du côté de l'Académie française, évidemment, avec les autres encyclopédistes, avec Condorcet, avec D'Alembert, ça ne s'est pas bien passé. Alors là, en particulier avec D'Alembert, il y a eu de grandes rivalités. Et, lorsque certains ont été élus à l'Académie française, au fond, Buffon a décidé de ne plus y mettre les pieds. C'était sa façon de procéder. Et à forte personnalité, évidemment, il n'était pas tendre, il n'avait pas envie de se disputer d'ailleurs en public, et donc il évitait finalement les conflits. C'était en effet une personnalité très, très forte, mais une belle figure, une belle personnalité, qui a su vraiment traverser son temps d'une manière absolument remarquable, comme un homme, bien sûr, de l'Ancien Régime. Et puis, un an après sa mort, tout va basculer. Et évidemment, le jardin royal, avec la disparition de la royauté, va être transformé avec, d'ailleurs, l'accord des administrateurs citoyens, professeurs du muséum, la douzaine d'administrateurs, vont décider, avec Daubenton en tête, l'ancien collaborateur de Buffon, de s'appeler Muséum National d'Histoire Naturelle. Et évidemment, on tourne une page dans l'histoire de France, mais le muséum, lui, demeure et a traversé tous les siècles. Et encore aujourd'hui, eh bien, on vient à la fois admirer l'œuvre de Buffon, le jardin qui subsiste, et on peut aussi aller faire un tour devant la statue de Buffon, très célèbre, et dans la grande galerie de zoologie devenue, qui a succédé aux anciennes galeries de Buffon, d'ailleurs, du cabinet d'histoire naturelle, et la galerie de zoologie qui est devenue la grande galerie de l'évolution, eh bien, on peut admirer le Buffon en majesté, fait par Pajou, et habillé comme une toge à la romaine, à moitié avec le torse nu. C'est une sculpture absolument extraordinaire, mais magnifique, un des grands monuments de la sculpture du XVIIIe siècle, et faite du vivant de Buffon, ce qui est tout dire.
Parce que c'était un homme extrêmement connu de son temps, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'arrive pas finalement, qui est très rare même. Il était vraiment très 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 célèbre en son temps.
Très très célèbre, à la fois par le succès incroyable de son œuvre et puis la position centrale qu'il occupait avec ce jardin, qui évidemment est devenu très vaste, très riche, très fameux, très célèbre, où toute la cour et toute l'Europe entière défilait et venait évidemment admirer ce lieu. Et c'est probablement grâce à Buffon que le muséum est resté aussi célèbre, et c'est pourquoi encore aujourd'hui il est visité à la fois par tous les petits-enfants, mais aussi bien l'empereur du Japon que les reines, les princes et les scientifiques, bien sûr, du monde entier, qui viennent encore aujourd'hui étudier un certain nombre des collections que Buffon a amassées. Le fameux Joco, Le singe que Buffon a étudié existe toujours, il est naturalisé, il est conservé dans nos collections.
Il avait les faveurs du roi et de la reine qui lui disaient qu'il était plutôt beau garçon et qu'on ne le voyait pas assez à la cour.
Oui, la marquise de Pompadour avait un peu un faible pour Buffon, en effet. Oui, il était fort bel homme, en effet. C'était un, hein. Après, évidemment, un peu diminué par ses soucis de santé.
Nous terminerons, Monsieur Taquet, sur une anecdote. Le comte Buffon était un gros dormeur, paraît-il, et il raconte lui-même que pour ne pas perdre un temps précieux à donner au travail, il avait promis un écu à son domestique, Joseph, chaque fois que celui-ci réussirait à le faire lever à l'heure, c'est-à-dire vers 5 heures. Et Joseph aurait un jour gagné son écu en aspergeant son maître d'eau froide.
C'est vrai. Je connaissais cette anecdote. Oui, je connaissais cette anecdote et je confirme tout à fait. Et,
le travail l'obsédait.
Le travail l'obsédait, bien sûr. Oui, le temps était précieux et donc il fallait...
Il travaillait beaucoup.
Il fallait beaucoup travailler.
Quelle était la journée de Buffon? Si on devait se replonger dans l'époque, à la vie, à l'époque de Buffon, bon, quelle était une journée type?
Oh, la journée type, c'était... Je n'ignore exactement à quelle heure il se levait, mais ça consistait effectivement à prendre une bonne collation et surtout à se faire amener les spécimens préparés, naturalisés pour les descriptions. Il y avait toute une mise en scène et toute une préparation des objets pour décrire, avoir énormément d'ouvrages. Buffon, évidemment, a utilisé les documents qui existaient et des descriptions qui étaient antérieures. Et Cuvier, un peu malicieusement, dit qu'une partie des descriptions se trouve dans un ensemble de livres qui étaient juste antérieurs. Mais le talent de Buffon a été vraiment de mettre en valeur ces matériaux et de les présenter d'une façon absolument admirable et claire. Et c'est ça qui a fait le succès de son œuvre. Mais Buffon, c'est une vision encyclopédique de l'ensemble de la nature, des minéraux, jusqu'aux mammifères, avec une mise en situation de la Terre, de son histoire, des événements qui se succèdent, des climats, des hommes, des continents, etc. etc. Et c'est vraiment la première grande synthèse dans l'histoire naturelle, et c'est une page importante, puisque à partir de cette œuvre monumentale, toute la science, toutes les sciences de la nature du 19e siècle vont pouvoir se développer et prendre leur essor. On passe avec Buffon d'une approche, je dirais, poétique, mythique de la nature à une véritable approche scientifique.
Monsieur Taquet, merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Si vous désirez en savoir plus sur Buffon, je conseille un petit ouvrage donc, que Monsieur Taquet évoquait tout à l'heure, qui vient de paraître donc, aux éditions Découvertes Gallimard de l'auteur Yves Lessu et qui s'intitule donc, Buffon, la nature en majesté. Avant de nous quitter, donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre émission gratuitement sur le site canalacademy.com. Monsieur Taquet, je vous laisse le dernier mot.
J'ajoute dans les références, le muséum, pour fêter le tricentenaire de Buffon, vient de publier dans sa collection archive l'édition intégrale de toutes les planches de Jacques de Sèvres en noir et blanc, avec des commentaires. Et c'est un ouvrage très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à l'art, et à la description et à l'art naturaliste du XVIIIe siècle.
Bien, merci beaucoup pour ce conseil, nous en profiterons avec grand plaisir et je vous dis donc à très bientôt.